Bonjour. Vous êtes bien sur RCV 99FM et vous êtes avec Jean Rage. C'est l'émission numéro 38 et nous sommes le 18 janvier. Nous sommes de retour. C'est dimanche en quinzaine. Au programme aujourd'hui, on va vous passer tout d'abord un montage, un petit montage de moins de 3 minutes sur lequel on reviendra à chaud juste après. Ensuite, on va décrypter un peu l'actualité bouillonnante de Charlie Hebdo en revenant sur différents points qu'on vous exposera tout à l'heure. Et pour clore l'émission, nous reviendrons avec une espèce de débat sur la liberté d'expression. Voilà.
Et puis tout de suite, pourquoi en fait, en tant que féministe, puisqu'on est un média féministe, pourquoi parler de Charlie Hebdo, le truc qui est déjà qui sature nos esprits et compagnie, parce que il y a un peu une diarrhée médiatique à ce sujet, que ce soit sur des médias nationaux ou même des radios associatives comme RCV. Vous êtes sur RCV, je ne sais pas si on l'a dit. 99 FM. Ok. Pour plusieurs raisons. La première, pour exprimer notre solidarité avec la lutte antiraciste, à laquelle soit on participe à notre niveau en tant qu'allié, soit à laquelle on souhaite participer. En tout cas, on exprime cette solidarité-là parce qu'ils vont avoir du travail. Ensuite, parce qu'il y a 50% de femmes en France, donc il y a au moins 50% des personnes racisées qui vont être victimes potentiellement de racisme dans les jours et mois et semaines à venir. Enfin, un racisme qui va s'exprimer d'autant plus. Et qui sont aussi potentiellement effectivement victimes de sexisme. Donc il y a un croisement entre ces discriminations. Ce chevauchement, on appelle ça une intersection. Et comme quand deux rues se croisent d'ailleurs, c'est une intersection aussi. Et du coup, le féminisme qu'on défend ici, à Jean Rage, il est intersectionnel, c'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que certaines personnes puissent faire l'objet de plusieurs discriminations à la fois et qu'il faut donc croiser les luttes pour inclure ces personnes dans nos luttes. Voilà. Et puis l'histoire, même toute récente, hein, montre bien que certaines mesures dites féministes peuvent nuire à certaines femmes parce qu'elles sont parce que ce sont des mesures racistes, par exemple la loi anti-voile comme on l'appelle, qui date de 2004, il me semble.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et puis troisième raison, parce que y a en jeu ici la remise en question d'un ou de plusieurs discours dominants, des discours qui oppressent certaines personnes, des mêmes discours qui peuvent nous oppresser nous en tant que femmes, en cisgenre ou pas. Enfin nous oui, à Jean Rage. Ou en tant que Gwyn, enfin bref, voilà. Et du coup, on souhaite participer également à cette remise en question. Voilà, et puis tout de suite, pour lancer l'émission, on vous passe un petit montage.
...70, le deuxième était le...
Dix morts dans l'attaque des locaux de Charlie Hebdo, bilan donné à l'instant par le parquet de Paris, une fusillade visant les locaux de cet hebdomadaire qui a été éclaté ce matin. Charlie Hebdo déjà visé il y a quelques mois par un attentat.
Le vivre ensemble prescrit par nos valeurs républicaines est-il mis à mal aujourd'hui entre autres par un désarroi culturel? Faut-il vouloir à tout prix préserver un modèle républicain unificateur alors qu'il est de plus en plus évident que la France est faite de diversité et comme d'autres le disent qu'elle est en fait déjà totalement multiculturelle.
Moi personnellement je lisais Charlie Hebdo depuis que j'étais toute petite, donc quand j'ai vu genre Charb, Cabu, tout ça, j'ai pleuré toute l'après-midi en cours, c'était pas génial, mais c'est super important.
Je trouve qu'on est beaucoup dans le compassionnel et que le travail du philosophe, c'est d'aller au-delà du compassionnel. Donc je conçois que tout le monde soit triste, malheureux, qu'on préfère la liberté de parole, la liberté d'expression plutôt que la tyrannie, la dictature. Enfin bon, on est dans des lieux communs compassionnels, tout le monde s'appelle Charlie, etc. Bon, tout ça c'est bien, mais le propre du philosophe, c'est la fameuse phrase de Spinoza qu'on enseigne à nos élèves en classe terminale, « ni rire, ni pleurer, mais comprendre ».
Ce sont des gens, les gens de confession musulmane, les Français ou les étrangers vivant en France, de confession musulmane, aujourd'hui ont des raisons d'avoir peur, d'être inquiets, parce qu'on leur fait porter évidemment des choses pour lesquelles ils n'ont aucune responsabilité.
En 2006, on a fait une couverture, on a reproduit les caricatures de Mahomet qui avaient provoqué toutes ces flambées de violence dans le monde, les caricatures danoises. À l'époque, on avait demandé à d'autres journaux de les publier aussi pour montrer qu'on avait, c'était pas, c'était pas, s'agissait pas de dire qu'on était d'accord avec chaque dessin et que chaque dessin aurait pu être publié dans Charlie si le dessinateur était venu nous voir avant qu'il soit publié au Danemark. Mais il y avait des bons dessins, il y avait des mauvais dessins, enfin il y avait tout. On les a publiés in extenso simplement pour montrer qu'on avait le droit de publier des dessins et que la publication de dessins n'était pas à mettre sur le même plan d'égalité que les violences qui ont suivi, quoi. Donc,
And my question to them was then, how come you are speaking about freedom of expression and there is a double standard? If we are against racism, we should be against all racisms. And if we are for freedom of expression, it has to be the same for all.
Do you think that Islamophobia is viewed as a form of racism?
It should be.
Voilà, voilà, traduction tout de suite pour les non-anglophones, ou si, oui, anglophones, pardon. Alors, de ma question aujourd'hui, c'est donc comment est-ce qu'on peut parler de liberté d'expression, alors même qu'il existe deux poids, deux mesures, ce qui en anglais est exprimé par double standard, double standard. Donc voilà, donc deux poids, deux mesures, si on est contre le racisme, on doit être contre tous les racismes, si on est pour la liberté d'expression, on doit être, ce doit être la même pour tous et toutes. La présentatrice lui demande « Est-ce que vous pensez que l'islamophobie est perçue comme une forme de racisme ?» et lui répond « Elle devrait l'être. » Voilà pour la traduction. Ensuite, les intervenants dans ce petit montage. Le premier extrait est un extrait de journal télé. On s'en fout un peu lequel. De toute façon, il n'y a pas spécialement de point de vue dedans. Le deuxième extrait, c'est Marc Voinchet, présentateur des Matins de France Culture. Le troisième extrait, c'est une manifestante, c'est l'extrait d'un montage réalisé par notre responsable des programmes en chef, Ben, à RCV, à partir de témoignages qu'il a recueillis lors du rassemblement en solidarité à Charlie Hebdo le 7 janvier à Lille, donc c'est un petit micro-trottoir. Le quatrième extrait, c'est Michel Onfray, c'est la personne qu'on entend qui parle de Spinoza, un philosophe, à mettre entre guillemets ou pas, ça dépendra pour qui. Bon, l'extrait en question qui est choisi est plutôt intéressant, mais ne vous méprenez pas, Michel Onfray est aussi l'heureux auteur de divers propos sexistes et racistes. Et puis, ben, checkez-le sur Internet si vous voulez en savoir plus. Cinquième personne, Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et directeur de l'Observatoire de la vie politique, OVIPOL. Qui était invité de Marc Voinchet, dans les matins de France Culture, sur la thématique « Faut-il réinventer le multiculturalisme à la française ?» C'est la personne qui dit que les musulmans de France doivent avoir peur. Sixième extrait, c'est Charb, dessinateur à Charlie Hebdo depuis 1992, dont il est devenu le directeur de publication en 2009. C'est quoi, en fait, un directeur de la publication? Est-ce que tu sais?
Non, c'est pas tout à fait le même truc qu'un rédacteur en chef.
Non, alors en fait c'est le visage du journal, en gros. C'est la personne qui est responsable du contenu, mais pas forcément qui décide du contenu en soi, quoi. C'est pas un rédacteur, donc, en chef. Et c'est la personne aussi qui est responsable d'un point de vue pénal. Donc si le journal est attaqué pour diffamation, par exemple, c'est lui qui parle au nom du journal, voilà. Okay. Et puis Tariq Ramadan, le dernier, celui qui parlait en anglais, philosophe, islamologue, c'est-à-dire que c'est un spécialiste sur l'islam, quelqu'un qui étudie l'islam, les textes sacrés, anciens, etc., les pratiques également, probablement, et qui milite pour le droit des musulmans et musulmanes en Europe et en France contre leur stigmatisation, comme vous l'aurez compris. Petite réaction à chaud, Annaëlle.
Ben, ce qu'on peut dire de cet extrait-là et de ce montage-là, et ce qui va nous servir un peu de fil conducteur là, tout au long de l'émission, c'est que les thématiques abordées dans les trois derniers extraits, sur le fait que les musulmans doivent avoir peur, sur l'idée qu'un dessin n'est pas comparable à des violences plus évidentes, donc ça c'est Sharp qui le dit, des violences physiques par exemple. Ce qui n'est pas dans le montage, mais ce dont on va aborder aussi, c'est de savoir si, c'est de questionner l'idée qu'on puisse rire de tout en étant n'importe qui ou avec n'importe qui.
Et que ça, enfin, est-ce que ça constitue une violence finalement ? Parce qu'il a l'air de dire que non.
Mm-hmm. Et finalement, le double standard relatif à la liberté d'expression et à la lutte contre le racisme.
Oui. Alors qu'est-ce qu'il essaie de dire exactement, Tariq Ramadan, dans ce truc, c'est ce qui était dans la traduction, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures en France, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement En fait, dans l'extrait que j'ai monté, juste avant, il évoque le licenciement de Ciné, qui est un ancien dessinateur de Charlie Hebdo aussi, qui en 2008 ou en 2009, je ne sais plus trop, avait publié un dessin satirique qui avait été taxé d'antisémite et il avait été licencié. Bon, apparemment, l'histoire est un peu plus compliquée que ça, parce qu'il y a des relations interpersonnelles avec la famille présidentielle d'alors, de Sarkozy et compagnie. Donc ça a l'air bizarre. Je ne sais pas trop si c'est vraiment une mesure de censure à proprement parler, parce que c'était un dessin antisémite ou pas.
Mais donc ça ne viendrait pas forcément de la rédaction, en fait.
Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce que Tariq Ramadan retient, c'est que les dessins islamophobes et arabophobes dans Charlie Hebdo, ils ont la cote. Et que la lutte antiraciste, donc, c'est pas la même, et que la limite entre liberté d'expression et diffamation, ou en tout cas, dans des termes non juridiques, où est la limite entre liberté d'expression et, par exemple, un truc que, potentiellement, on pourrait considérer comme de l'incitation à la haine.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'est un des enjeux. On va vous en parler tout de suite de ces enjeux. Que penser de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer peut-être? Quels sont les enjeux donc, de ces événements médiatiques, hein, bien évidemment. Les attentats, on en parlera aussi, mais c'est autre chose. Quelles questions se poser, etc. On revient tout de suite là-dessus, juste après une petite pause musicale. On vous passe une chanson qui s'appelle Nomios de Nomium de Legovelt, de l'album Klaus Kinski, sorti en 2002. Il est allemand, vous l'aurez compris. We'll be right back. m'improvise DJ.
Voilà, vous êtes de retour et nous sommes de retour sur RCV 99FM et vous êtes toujours avec Jean Rage. On est toujours le 18 janvier. Juste pour rebondir tout à l'heure sur ce qu'on disait sur deux poids deux mesures entre liberté d'expression et lutte contre le racisme. On entend aussi beaucoup, et là c'est dans les répercussions directes de l'attentat, il y a eu des juifs pris en otage et des juifs, quatre juifs tués lors des attentats et de la prise d'otage de l'hypercacher Porte de Vincennes par Amédi Coulibaly. Et du coup les synagogues et les écoles juives ont été, enfin la sécurité des synagogues et des écoles juives pardon, ont été renforcées avec un déploiement de forces policières assez conséquent, etc. Et il n'y a rien de mise en place autour des mosquées et des écoles arabes et musulmanes.
Ouais, donc c'est effectivement le deux poids deux mesures.
Ouais, c'est ça. Alors qu'ils sont aussi menacés et qu'il y a eu plusieurs tags, il y a eu des incendies. Enfin, c'est assez violent et ils sont pris à partie aussi parce qu'il y a une espèce d'amalgame qui est fait entre arabes, musulmans, intégristes et extrémistes. Voilà. Tout de suite, on revient sur les enjeux de l'attentat. Un des premiers enjeux dont on a voulu parler, c'est le fait que l'attentat, proprement parlé, s'attaque à un symbole de la liberté d'expression, puisque Charlie, c'est un organe de presse. Et donc, là, entre autres, on ne va peut-être pas développer non plus des masses, mais là, la liberté d'expression était mise en cause parce que Charlie Hebdo a repris des caricatures. Cher Bloody, du prophète, mais c'est pas les seules caricatures qu'il a fait et c'est pas n'importe quel organe de presse en plus, c'est un journal satirique et de dessin. Donc voilà, c'est un des enjeux qui est soulevé.
Sans revenir après sur les raisons
non.
De l'attentat évoqué par ces terroristes, finalement c'est la liberté de dire quoi. Alors, pour rappel, une caricature, quand même, on va en reparler. Ouais. Par excellence, c'est censé ne pas être du premier degré. Et l'objectif d'une caricature, c'est tourner en ridicule, montrer l'absurdité d'une situation, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a eu ces histoires de caricatures de maoïstes, quand c'était en 2006.
Ça a été repris plusieurs fois.
Ah oui, il le disait dans le...
Je pense que... Ouais, 2006, j'ai plus la date exacte des premières fois, en tout cas des premières publications en soutien au journal danois qui les a publiées d'abord. C'était avant 2009 parce que c'était...
C'était 2006, c'est sûr, en fait.
Ouais.
Du coup, voilà, finalement, c'est quoi ces caricatures de Mahomet? On pourrait se dire, allez, on ne tourne pas en dérision l'islam et les musulmans, mais les extrémismes religieux, c'est un argument qui est tout à fait recevable en réalité. Hein, problème de ces caricatures... Là et d'autres caricatures qu'a pu publier Charlie Hebdo, c'est l'amalgame qui est fait à chaque fois. Parce qu'il y a quand même ce truc de construction d'un personnage ou d'une identité musulmane un peu totalitaire et unique. Il n'existe qu'un musulman qui est oppresseur, qui est extrémiste et ridicule. C'est le principe de la caricature. Donc ça incite un peu au mépris, forcément. Et il n'existe qu'une seule musulmane aussi, par excellence, dans ces caricatures, qui est toujours voilée, qui est le symbole de l'oppression de l'islam sexiste par excellence, dans tous les cas, que ce soit pour des femmes ou pour des hommes, ils sont aussi souvent représentés comme profitant d'un système du CAIR français, du système de sécurité sociale et compagnie. Et du coup, c'est un peu stigmatisant, quoi.
Après, pour nuancer un peu, moi, de mon côté, pour nuancer un peu, c'est aussi toujours à replacer, quelles que soient les caricatures, d'ailleurs, pas seulement celles de Charlie Hebdo, toujours à replacer dans un contexte particulier. Là, les caricatures de Charlie Hebdo dans un contexte d'actualité et d'information internationale qui plus est. Donc voilà, faire attention aussi. En plus, là, c'est pas fourni avec le guide de compréhension des dessins. Il peut y avoir aussi à un moment mésinterprétation ou mauvaise compréhension des caricatures et qu'il n'y ait pas une intention derrière d'eux. N'empêche que quand on reçoit la caricature, on peut trouver ça stigmatisant et on peut se trouver stigmatisé si on s'identifie au dessin, justement parce que n'y a pas de légende ou de ligne explicative, ou, enfin, c'est le dessin brut et chacun l'interprète comme il veut. Donc voilà, mais toujours à replacer dans un contexte particulier aussi, ce qui est relativement important dans la compréhension des dessins selon moi.
Voilà, et puis donc sur cette question de... sans dire que ça a été une des raisons peut-être de cet attentat, ou j'en sais rien, ou... Enfin, sans vouloir tomber dans le on est dégoûté, voilà, où ils l'ont bien cherché, ça reste quand même un journal islamophobe. Enfin, pour moi, définitivement islamophobe et arabophobe. Il y a quand même eu une tribune à un mec qui s'appelle Grégorius Neckshot, qui est un blogueur danois, blogueur, qui a été censuré dans son pays pour des dessins ultra racistes qu'il avait fait, et ils ont fait une grosse tribune à ce mec-là à Charlie Hebdo. Il y a un super article qui est écrit par Olivier Siran, qui a été écrit en décembre 2013, donc c'est pas un article qui vient d'être écrit, enfin, il y a pas longtemps quand même, et qui développe les raisons pour lesquelles lui il trouve que Charlie Hebdo est devenu un journal qui se vautre, je pense qu'il utilise d'ailleurs ce mot, dans l'islamophobie et donc dans la pensée dominante actuelle, puisqu'il y a quand même un climat assez...
islamophobe.
Voilà. Et du coup, il parle des dessins qui ont été... des dessins de ce gars-là à qui ils ont quand même donné une super tribune, et sans remettre en question et sans dire que c'était raciste, etc. Parmi ces dessins, il y a un imam qui est habillé en Père Noël en train d'enculer une chèvre avec une légende « Il faut savoir partager les traditions ». Un autre dessin où il y a un arabe affalé sur un pouf et perdu dans ses pensées, où, avec comme légende, le Coran ne dit pas s'il faut faire quelque chose pour avoir 30 ans de chômage et d'alloc. Et il y a un dernier dessin, avec un néerlandais blanc, sous-entendu, c'est pas, voilà, chaîne aux pieds, portant sur son dos un noir, bras croisés et tétine à la bouche. Alors, si c'est pas du racisme, je sais pas ce que c'est. Ça a quand même été un truc qui a été publié. Enfin, les dessins n'ont pas été publiés dans Charlie Hebdo, mais ils ont quand même laissé une grosse tribune à ce mec-là, une page complète, quoi. Voilà. Et puis, pour revenir sur les caricatures de Mahomet, c'est vrai qu'en off, en préparant l'émission, on se disait aussi que, bon, ils n'ont pas caricaturé que Mahomet, ils ont caricaturé le pape, effectivement, et ou le Dalai Lama. Effectivement, en off, on en reparlait, on se disait que c'était des personnes...
existantes, enfin...
Voilà. Mais surtout, là, l'enjeu, c'est que c'est pas le même climat, il n'y a pas un climat particulièrement christianophobe ou bouddhistophobe en France, pour le Dalai Lama. Enfin bref, du coup, il y a vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment une incitation à la haine dans les caricatures, quoi, dans les...
Bah, c'est pareil, après, en off, on en discutait aussi, parce que moi, je suis un peu plus réservée sur le caractère islamophobe de Charlie Hebdo. Après, j'ai pas tout lu, loin de là, et d'ailleurs, je vais m'y intéresser à nouveau et de plus près, parce que c'est quand même une question qui me gêne personnellement. Mais du coup, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il fallait le replacer dans son contexte. Effectivement, les dessins pris comme ça peuvent et sont racistes. Après, livrés sans explication, ça peut prêter à une mauvaise interprétation. Et le truc, c'est que Charlie Hebdo n'était pas lu par tout le monde. D'ailleurs, ils étaient en redressement financier, etc. Enfin bref, il manquait d'abonnement, machin. Et je me demande si c'est pas aussi... si justement, là, il n'y a pas une très grande distance qui est prise avec les dessins et qui dénonce un caractère social, etc. Et qui est du coup plus raciste, mais qui est plutôt... qui tourne plutôt en dérision la société dans laquelle on est, etc. Et qui cherche à choquer pour faire réfléchir.
Oui, c'est clair.
Mais du coup, sans forcément avoir une pensée raciste derrière, c'est une question que je pose, hein, j'en suis pas certaine. Mais du coup, livré sans explication, ça fait un peu élitiste en fait comme journal, du coup, parce que quelqu'un qui prend un Charlie Hebdo comme ça sans avoir d'explication et qui est pas habitué à le lire, forcément qu'il se prend les dessins dans la gueule en trouvant que c'est raciste. Alors que quelqu'un qui lit depuis 15 ans, qui connaît la ligne éditoriale du journal, peut-être que lui ça le choque plus, ou que ça le choque pas, ou que ça le choque de... Enfin, justement pour que ça le fasse réfléchir et que ça le choque de manière positive plutôt. Voilà, c'est là-dessus que je place la nuance, mais à voir, à étudier.
Dans tous les cas, ça reste un des enjeux de... Enfin, de... Pas des événements, mais c'est une bonne question à se poser. Oui, alors la liberté d'expression a été menacée et a été a été mise à mal avec ces attentats-là. C'était effectivement l'objectif. Mais après, quelle liberté d'expression ? C'est quelque chose sur lequel on reviendra un peu plus en détail après. Un des autres enjeux pour comprendre un peu ce qui se passe en ce moment, c'est aussi de se dire ce qui va se passer après, les répercussions.
Ouais.
Alors il y aura forcément un renforcement de l'islamophobie. Il y en avait déjà avant.
Bah ouais, puis on le voit déjà là avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les attaques des mosquées, etc. Un amalgame de faits entre musulmans et extrémistes.
Ensuite, est-ce que finalement l'origine de ces extrémismes ne se trouve pas en partie peut-être dans cette islamophobie occidentale? On ne peut pas vraiment répondre à cette question, mais c'est une question qu'on se pose. Ça peut être une réponse violente à une oppression, une discrimination et à une forme de violence qui est autre, qui serait celle du racisme, qui s'exprimerait peut-être pas physiquement ou par la force, parfois oui d'ailleurs, mais là en l'occurrence pas forcément, mais en tout cas effectivement il y a une certaine forme de violence que la société rejette sur une partie de la population qui n'a pas forcément demandé.
Ouais, il y a une espèce de violence symbolique hyper forte mise sur les Arabes et sur les musulmans ou même sur les Français d'origine maghrébine, parce que la plupart des générations actuelles qui se sentent rejetées, les jeunes, machin, ils sont Français de nationalité, mais ils sont d'origine maghrébine ou de confession musulmane, et ils sont stigmatisés de la même manière.
Voilà, et donc sur ce point-là, avant donc de penser tout et n'importe quoi, de dire tout, faire tout, etc., pensez à ça. Et puis on vous invite aussi à lire un article qui a été publié sur le site internet des Indigènes de la République. Il faut combattre plus que jamais il faut combattre l'islamophobie, qui a été publiée le 15 janvier, donc c'est vraiment tout récent.
Et termine ce que tu veux dire, c'était pour rapport aux répercussions.
Vas-y.
Je pense aussi, pour pas rester que dans le négatif, que ça peut avoir des répercussions positives si jamais on se pose les bonnes questions, et que justement on se demande si le climat islamophobe est actuel, depuis une dizaine d'années, qui circule en France, et pas en partie responsable des extrémismes qu'on peut observer, etc. Et pas que ces questions-là d'ailleurs, mais reprendre tout ce qui a été dit par les chercheurs, les sociologues, les politologues, etc., le désengagement de l'État vis-à-vis des banlieues, ou la paupérisation des classes moyennes inférieures, ou ce genre de trucs, c'est des gros mots sociologiques et politiques, mais ça peut poser des vraies questions aussi, et je pense que si on les prend à bras le corps, l'éducation aussi, les instances socialisatrices, etc., on peut aussi avoir des répercussions plutôt positives suite à cet attentat, quoi.
Juste pour terminer, après on vous repasse, on fait une petite pause de nouveau. D'ailleurs, sur le site des Indigènes de la République, ils expliquent exactement ce qui veut dire islamophobie. L'accusation d'islamophobie ne vise pas ceux qui critiquent la religion, mais ceux qui attribuent aux musulmans une identité qui découlerait du Coran, qui en font un groupe homogène et porteur d'un projet cohérent visant nos institutions, nos valeurs. À rebours de cette analyse, nous nous inscrivons dans les tâches de l'héritage, de la laïcité telle qu'elle a été définie par les députés qui ont voté la loi de 1905, une séparation des églises et de l'État, une neutralité de l'État, et non pas des citoyens, le droit de chacun d'affirmer sa religion dans l'espace privé ou public. Voilà, c'était juste pour préciser. On vous repasse un titre, et puis on revient un peu sur les autres enjeux, voilà.
Ouais.
On vous passe Infinity Inc., le titre s'appelle Infinity, un groupe qui existe depuis 2012. Apparemment, c'est un duo d'avant qui s'appelait je ne sais plus comment. Ils n'ont pas vraiment d'album, juste des singles. Alors, on vous en passe un. À tout de suite.
À tout de suite.
Ah,
Voilà, donc vous êtes toujours sur RCV 99 FM, toujours avec Jean Rage, jusqu'à 15h, donc encore un peu plus de 20 minutes. Pour terminer sur les enjeux soulevés par ces attentats, on voulait aussi parler des éventuelles et, récupérations politiques que ça va avoir et revenir sur ça veut dire quoi, je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie. C'est quoi une marche républicaine ? Et parler rapidement, éventuellement, du boycott des minutes de silence dans les écoles.
Alors oui, effectivement, récupérations politiques, on a vu qu'elles étaient légion, vu que tous nos chers dirigeants d'Europe et d'ailleurs sont venus à la fameuse marche républicaine. D'ailleurs, ça veut dire quoi, républicaine ? Est-ce que c'est pour dire on défend le projet républicain, quel est-il, etc. Ça repose la question d'identité nationale, enfin bref. C'est des trucs assez... Enfin, moi, c'est à ça que ça me fait penser directement. Donc, bon, après, j'y suis pas allée, mais pour d'autres raisons. Mais il y a un truc qui me turlupine quand même. Comment est-ce que c'est possible que tout le monde s'accorde d'un coup pour crier à l'unisson son attachement à un journal, défendre la liberté d'expression, et quand les politiques de tous bords se mettent d'accord pour dire la même chose, moi, généralement, ça me fait me poser des questions. Je me dis, ah, c'est bizarre quand même. Donc je me pose la question de à qui profitent ces événements finalement. Bon, on a un peu la réponse. L'extrême droite va pouvoir récupérer ce truc et alimenter leur idéologie xénophobe, mais le gouvernement du PS aussi, puisqu'apparemment il y a déjà des mesures qui vont être mises en place en termes de sécurité intérieure.
En plus, même avant ça, alors c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais la cote de popularité de François Hollande a largement remonté, a gagné quelques points avec ses attentats, parce qu'il paraît qu'il a géré ça d'une main de maître, etc. N'empêche que voilà, il a gagné quelques points dans les sondages. Donc ça lui profite directement, même si je ne suis pas sûre. Enfin, il était obligé de gérer, donc ce n'est pas ça, c'est plutôt indirect, mais... ça peut jouer aussi là-dessus, le tour. Enfin, c'est intéressant. Pourquoi je parle de ça ? Parce que ça peut être intéressant de se poser la question du tournant qu'il va prendre juste après pour essayer de garder cette popularité en hausse, quoi. Voilà.
Qui posera peut-être problème.
Ouais.
Sécuritaire, quoi.
Tournant sécuritaire, oui, ça c'est certain, ça a déjà commencé. Après, quelle sécurité ? Parce qu'on commence à entendre plus ou moins parler de Patriot Act et tout. Enfin, c'est des choses qui font assez flipper quand même.
Puis pour protéger qui, quoi ? C'est
ouais, puis pour protéger qui, tout en voulant maintenir Sarko à distance, Le Pen à distance. Enfin, ça donne un truc un peu compliqué quand même, parce qu'un tournant sécuritaire, tout en voulant garder l'UMP et le FN loin. Enfin voilà, ça peut être des questions qui vont être intéressantes à observer dans les semaines à venir, quoi.
Ensuite, juste deux petites secondes sur la comment ça s'appelle ? Le truc des écoles,
les
la
boycotts.
Minute du silence, ouais. Qui a effectivement, donc, premièrement, il y a déjà une espèce de chasse aux sorcières qui n'est pas Charlie, si tu l'es pas, tu représentes une menace, t'adhères pas au projet national ou je ne sais quoi. Moi, je trouve pas ça hyper normal déjà d'avoir imposé ça dans les écoles, je vois pas ce que ça a à faire dans les écoles.
La minute de silence imposée dans les écoles... j'en sais rien, je me suis pas posé la question de savoir si c'était normal ou anormal, on l'a toujours fait, enfin moi ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que...
Et on l'a fait pourquoi aussi ?
On l'a fait...
Moi je me souviens pas avoir fait de minutes de silence, après j'ai pas une mémoire...
Si, moi je me souviens d'en avoir fait, mais je sais plus pourquoi, j'étais en primaire, un truc comme ça...
Mais ça me semble assez bizarre, étant donné que c'est un journal dont la ligne éditoriale fait déjà polémique, qu'on impose dans les écoles... Une minute de silence pour honorer la mémoire de gens qui ont écrit des trucs islamophobes. Ça me paraît pas hyper normal, mais bon.
Justement, moi, là-dessus, pour revenir sur ce que ça veut dire quoi, je suis Charlie. Parce que c'est pareil, c'est pas que pour le journal, je pense, parce qu'il y avait entre samedi 10 janvier et dimanche 11 janvier, il y avait genre 4,5 millions de personnes dans la rue. Il y avait pas 4
millions.
Mais
c'est eux qui choisissent de le dire.
Oui, non, mais bien sûr, mais il y avait pas autant de lecteurs de Charlie Hebdo, tu vois. Mmh. Et donc, je pense que je suis Charlie, c'est aussi quelque chose de vachement symbolique. Charlie, c'est devenu un symbole, c'est pas que le journal derrière, c'est la liberté d'expression, les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, qui sont pas respectées, mais qu'on avait envie de remettre au goût du jour.
Ouais, mais du coup, justement, si elles sont pas respectées, enfin, si c'est que du comment on appelle ça ? J'ai envie de dire du flan, c'est pas ça l'expression ? Si c'est que du vent, voilà, ouais. Ça ressemblait. Si si c'est que du vent, bon, je sais même plus ce que je voulais dire.
Pour moi, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a des personnes qui ont voulu boycotter la minute de silence, parce que justement, c'est quelque chose d'hyper hypocrite et que ça arrive après qu'il y ait eu 12 morts, quoi. Et donc, 17 morts en tout. C'est une question qui est intéressante, mais pourquoi il a fallu qu'il y ait 17 morts pour qu'on se pose les questions d'une société qui se casse la gueule et avec des valeurs républicaines qui sont plus respectées? Je pense que d'une part.
Ou qui sont plus inclusives.
Ouais, bah non, carrément pas ça. Mais...
En tout cas, dans l'interprétation qu'en font les personnes au gouvernement et qu'ils traduisent en termes de politique sur le terrain. C'est pas inclusif.
Non, c'est pas inclusif, mais après je pense que d'une part, le Je suis Charlie, il peut vouloir une reprise de ces valeurs-là, il peut vouloir dire il a fallu qu'il y ait ce drame-là pour qu'on se rende compte que ça se casse la gueule et qu'on a envie de le reprendre en main. Et d'un autre côté, les Je ne suis pas Charlie et les boycotts des minutes de silence, ils peuvent vouloir dire les mecs, vous êtes bien mignons, mais nous ça fait 10 ans qu'on a envie de cette reprise-là, il a fallu qu'il y ait 17 morts, moi j'attends de voir ce que ça donne, parce que j'ai pas confiance, parce que j'y crois pas, parce que on hurle au loup depuis 10 ans et qu'il y a rien qui se passe, quoi. Voilà.
Du coup, on vous proposait, vu qu'on n'est pas d'accord à 100% dans cette rédaction, pour terminer, avant de passer au petit débat qu'on voulait proposer sur la liberté d'expression, d'ailleurs, je vous ai toujours invité dans nos émissions. Si vous voulez venir, vous nous contactez, vous pouvez venir parler à la radio ou discuter avec nous ou nous vous faire savoir ce que vous pensez de ce qu'on a pu vouloir dire, de ce qu'on a dit. Bref, vous avez compris.
Après, s'il n'y a pas de réaction à chaud, on peut peut-être reprendre des trucs qui ont été publiés, des commentaires sur Facebook et tout, et revenir éventuellement.
Voilà. Donc vous êtes invité à
participer.
Voilà. Alors moi, je ne suis pas Charlie, par exemple, parce que je condamne la ligne éditoriale du journal. Parce que je trouve qu'elle alimente des discriminations, qu'elles soient racistes, sexistes ou homophobes, auxquelles j'adhère pas et du coup je me sens pas du tout Charlie. Et je trouve que, bien évidemment, les assassinats, c'est quelque chose qui est tout à fait regrettable et que, je glorifie pas ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais je suis absolument pas d'accord, je l'ai jamais été avec la ligne éditoriale, donc je me sens pas Charlie et je me sens pas de défendre la liberté d'expression et d'exprimer des propos qui sont oppressants pour d'autres personnes. Alors raciste, on en a déjà parlé, mais sexiste et homophobe, il y a eu aussi. Pendant le faux débat sur le mariage pour tous, il y a eu une couverture, par exemple. C'était la première page de Charlie Hebdo du 22 mai 2013, donc, où il y avait un dessin avec deux personnes. Il était écrit en légende « Protégeons nos enfants, non aux manifs de vieille Gwyn ». Et c'était, voilà, ça fait rire Annel. C'était Christine Boutin et Frigide Barjot. Christine Boutin et Frigide Barjot. Donc voilà, il y avait ce dessin-là. Donc effectivement, c'est pour tourner en
guérison.
Voilà, je commence à plus savoir parler, c'était pas encore arrivé.
pour tourner en dérision.
C'était donc, bref, il y avait ce dessin-là et il y en avait un autre dans le même numéro, il me semble, dans le même contexte en tout cas, qui représentait Sarko et d'autres de l'UMP disant « les Gwyn, on les encule ». Donc que penser de ça? Oui, effectivement, c'est du second degré. L'intention, je pense qu'on est d'accord en l'occurrence pour dire qu'elle essaie de tourner en dérision les actions et des discours anti-mariage pour tous et que c'est pas une tribune à l'homophobie, bien évidemment. Qu'est-ce qui est problématique par contre? En tout cas, ce qui me paraît problématique, c'est les mots qui sont utilisés. Non aux manifs de vieille Gwyn, déjà, ça reprend la figure. Ça reprend le mot Gwyn qui est une insulte au départ, qu'en tant que Gwyn, on a le droit de se réapproprier parce que c'est nous, mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Enfin, on a le droit de le faire, mais c'est mal. C'est pas cool de l'utiliser. C'est une insulte. Ça reprend aussi, pour moi, la figure de la vieille femme frigide qui a 50 balais, qui est seule, qui est une mal baisée, qui est Gwyn, ou vice-versa, qui n'a pas d'humour, qui est rigide, etc. Puis en plus, ces deux figures particulières, Frigide Barjot, et Christine Boutin, elles représentent toutes les deux la droite catholique. Le deuxième, je trouve ça un peu viriliste sur les bords. En l'occurrence, il n'y a même plus de second degré, là, je pense. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les Gwyn, on les encule. Elles veulent la loi pour le mariage et la PMA, elles font chier, quoi. Bref, du coup, c'est juste violent, en fait. je trouve ça juste violent. Et en plus, ça fait référence aussi à d'autres insultes comme enculé, qui représente les PD, en fait, et qui en devient une insulte. Donc moi, c'est des choses... En tout cas, les termes utilisés, les mots, ils me posent problème en soi, même si l'intention, elle n'est pas mauvaise en l'occurrence, j'en suis bien consciente. Donc, je suis pas Charlie.
Bah, moi, en l'occurrence, je suis Charlie, parce que ça m'a dit tout à l'heure qu'on n'était pas tout à fait d'accord dans cette rédaction. Là où je rejoins Zab sur les caricatures là, du mariage pour tous, c'est qu'effectivement, ce sont des termes qui sont repris par des hommes, d'une part, parce qu'il y a peu de femmes dans l'édition... dans l'équipe de rédaction de Charlie Hebdo, qui sont des hommes hétéros, cisgenres, bref, et donc qui reprennent des termes qui sont censés choquer et qui sont tournés en deuxième degré, mais qui a priori les concernent pas. Donc ça c'est un peu problématique. Par contre, moi, je suis Charlie, tout en sachant à partir de quel privilège, déjà, d'une part, je me situe, et en connaissant les enjeux aussi. Je suis Charlie de par mon éducation, d'une part, de par le fait que je porte intrinsèquement les valeurs de la République française, même si elles sont plus d'actualité, et je suis Charlie parce que je trouve regrettable justement qu'elles soient plus d'actualité. Je suis française et d'origine française, mais en même temps, je ne suis pas hyper patriotique et je me sens plus européenne que française. Et je ne porte pas ces symboles-là au nom de la République, mais au nom de l'humanité. Liberté, égalité, fraternité. C'est pour la liberté d'expression que je suis Charlie, parce que j'ai envie de devenir journaliste aussi, et que du coup, ça m'a donné encore plus envie de faire ce métier-là, tout en étant hyper critique sur la manière avec laquelle le métier est fait aujourd'hui. Et je suis aussi Charlie pour ça, pour essayer de changer et de refaire les choses correctement, et d'apporter de l'information, et pas juste un brassage hypocrite repris de la même manière par toute la presse et tous les médias. Voilà, il y a plein de choses pour lesquelles je suis Charlie, et je ne veux pas tout énumérer là, mais... c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, tout en sachant aussi, je le répète, que je prends de la distance par rapport à ça, que je sais dans quel, avec quel privilège éducatif je porte cette symbolique-là, et quel enjeu ça soulève aussi de me dire « je suis Charlie », quoi. Voilà.
Et tout de suite, un petit titre, on vous met que 2 minutes, je pense, parce qu'en fait, comme d'habitude, ça passe vite. Une heure, pardon. La rue qui est à nous, Germaine. Deuxième titre de l'album À Contresens, sorti en 2009. À tout de suite.
À tout de suite.
Elle s'appelle toujours Germaine. Mais là, il y a quelque chose qui a changé. Son nom de famille n'est plus le même. Elle nous a dit, ça y est, c'est l'acquis. Tout va bien, les jeux ne sont pas faits. Je reprends mon nom de jeune fille. C'est une seconde jeunesse. Regarder et se réconcilier avec d'anciennes chimères qui avaient fui la chasse aux sorcières de la bonne société. Mais maintenant Germaine ne laisse plus faire. C'est une seconde jeunesse et rien que pour geste, nous on voudrait l'encourager. suffisait d'y penser. Tu as été une bonne mère,
une bonne épouse,
une bonne employée, et surtout une bonne à tout faire. Tu nous rappelles.
Oula, c'est un petit peu brutal, désolé. Mais vous êtes toujours sur RCV, il reste un peu moins de 10 minutes, donc on n'a plus des messes de temps. Vous êtes toujours sur RCV avec Jean Rage, et puis on pensait vous parler un peu. Bon, pas débattre, enfin, on va pas organiser un débat sur la liberté d'expression toute seule, en monologue ou à deux, tu vois.
Enfin, si
on
peut, c'est un peu court.
Mais du coup, on se posait la question, est-ce qu'on peut... enfin, en tout cas, moi, c'est une question qui me taraude vraiment. Est-ce qu'on peut rire de tout et moi, j'ai entendu des trucs comme, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est quelque chose qui me gêne vraiment. Du coup, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est... que finalement les mots ont un pouvoir, que tu sois un mec blanc ou un président de la République, un rebeu, une meuf, racisée ou pas, un enfant, un hétéro, blablabla. Ce que tu dis, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même crédibilité, pardon. Parce qu'un mot, le sens, il n'y a pas que la personne qui le dit, qui investit le mot de son sens, il y a aussi la personne qui le reçoit. Donc c'est, le sens, il se construit à deux ou à plusieurs. Il y a certaines personnes qui sont reconnues comme étant légitimes pour dire ou faire. Donc, par exemple, quand on vote pour quelqu'un, on fait une sorte de passation de pouvoir de dire à ma place. Et la personne qui est élue, c'est celle qui a reçu le plus de passation de pouvoir de dire et de faire à nos places. Il y a aussi des prises de pouvoir. Donc, par exemple, si je fais un master en économie, je m'approprie un vocabulaire, des théories, etc., qui me permettent de savoir mieux que quelqu'un d'autre. En tout cas, dans notre société, c'est comme ça que ça marche. Ça me permet de savoir mieux que quelqu'un d'autre pardon, et de dire avec plus de crédibilité. Si j'ai fait un master en économie et que je dis « le capitalisme, c'est viable et la décroissance, c'est une utopie », tout le monde y croit. L'inverse, là, en l'occurrence, si je dis l'inverse, moi qui n'ai pas fait de master en économie, on va me dire « bah vas-y, explique et tout » et j'ai pas
les arguments
ou les outils pour l'expliquer. Bref. Donc voilà, il y a ces prises ou passations de pouvoir. En tout cas, les mots, ils sont investis d'un pouvoir de dire. On va pas... Enfin bref, c'est un peu compliqué à expliquer. Je sais pas si j'ai été très claire.
Bah, moi, j'ai compris, mais...
en tout cas, pour reparler de blagues et d'humour, prenons l'exemple d'une blague sexiste. Si moi, en tant que meuf, je dis à une pote ou je ne sais qui d'autre, de toute façon, t'es qu'une femme, ta place, c'est dans la cuisine et à la maison avec les mioches. Je tourne en dérision mon propre statut d'opprimé, en l'occurrence, puisque je suis une femme aussi, et je suis la première touchée par ce que je viens de dire, dans le contexte d'une blague, hein, bien évidemment, mais il y a aussi des personnes qui peuvent le dire sans second degré. C'est ce qu'on appelle aussi un retournement de stigmate. C'est la même chose avec Gwyn ou PD, par exemple, qui sont au départ des insultes, pardon, qu'on se réapproprie pour en faire quelque chose de positif. Mais il n'y a qu'en étant Gwyn ou PD qu'on peut le faire, peut faire cette réappropriation. C'est comme... C'est quelque chose qui est insultant à notre égard au départ. Donc voilà. Pour revenir à la blague, c'est aussi une manière de déconstruire un peu l'éducation qu'on a reçue en tant que femme, les stéréotypes dans lesquels on a été élevée, etc. Puisque c'est tourné en dérision, justement. Si je tourne en dérision le fait qu'en disant « t'es qu'une femme, tu dois être à la cuisine », c'est parce que je me rends bien compte finalement que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué, mais qui n'est pas, par exemple, qui n'a pas une origine biologique. Ce n'est pas inscrit dans mon ADN que je dois aller faire la cuisine.
Et c'est parce que tu l'as déconstruit que tu arrives à avoir du deuxième degré dessus, parce qu'il y a des femmes qui peuvent le dire au premier degré.
Voilà. Et moi, si j'ai du second degré dessus, c'est parce que je trouve ça ridicule, justement. Mm. Voilà. Donc là, dans ce contexte-là, c'est faisable. L'humour fonctionne, qu'on trouve ça drôle ou pas. Si un mec dit ça à une meuf, même dans le cadre d'une blague, même si lui, dans sa tête, s'est déconstruit et que c'est faux et que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué et qui n'est pas inscrit dans l'ADN des femmes de faire la cuisine, etc. Si lui fait exactement la même blague en la disant à une femme, il n'y a pas de retour du stigmate vu que lui n'est pas stigmatisé et pas la personne qui est opprimée dans la blague. Même si ça reste de l'humour, lui, il a la position de dominer. Il fait que, vu qu'en plus, c'est les hommes qui ont dit ça aux femmes, et qui ont construit la société, le système de bicatégorisation, etc. Je ne vais pas revenir dessus.
Bah pour... D'ailleurs, en tant que femme, en retournant ce stigmate-là, on reprend des propos masculins. Donc le fait que ce soit un homme qui le dise, il n'y a pas de déconstruction.
Exactement. Et du coup, lui, il ne fait que réaffirmer sa position de dominant, même si lui, il ne se sent pas dominant ou il ne domine pas en pratique. Il reproduit en fait un discours qui est déjà dominant, une pensée dominante qui est déjà... partout dans la société, donc c'est pas subversif. Mmh. Et même si c'est satirique, parce que satirique c'est juste tourner en dérision, ça veut pas dire que voilà. Au départ, quand même, je pense que la satire c'était politique, enfin dans la manière dont ça s'est développé, je pense, ça a incité à un changement, voire une révolution, tu vois, un truc progressiste au départ, même si ça peut être utilisé à d'autres fins, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est en adéquation avec une pensée qui est dominante, donc c'est conformiste et pas anticonformiste. Mmh. Et pour moi, c'est ça que fait Charlie Hebdo en tenant des propos ou en dessinant des trucs qui sont islamophobes, parce qu'il y a déjà un climat d'islamophobie. L'islamie est même institutionnalisée, puisqu'il y a des lois qui servent cette idée, enfin ce truc-là, comme la loi anti-voile, comme je l'appelle, pour faire plus court. Et du coup, où est-ce qu'elle est la satire ?
Justement, pour conclure, parce qu'il va être l'heure... c'est là-dessus que je te rejoins. En plus, c'est beau parce qu'on n'a pas été d'accord sur toute l'émission et que c'est là où je te rejoins. Mais c'est aussi avec ça que je nuance les propos de Charlie Hebdo et l'islamophobie avérée ou non de Charlie Hebdo, justement, parce que en s'inscrivant là-dessus et en reprenant, en étant satirique, mais en se plaçant du côté des dominants, c'est quelque chose d'assez problématique. Et en même temps, je suis pas sûre qu'on... Enfin, c'est ce qui me permet aussi de nuancer le fait qu'on puisse les taxer de racisme ou pas, quoi. Mais je te rejoins là-dessus, c'est problématique parce qu'ils se placent du côté des dominants tout en caricaturant à chaque fois des dominés.
Bon, à chaque fois, c'est vrai que j'ai pas assez lu Charlie Hebdo, ils font peut-être d'autres trucs aussi où les dominants...
En tout cas, là, en l'occurrence, sur les dessins qui font débat, c'est parce que ce sont des dominants.
Mais par exemple, je sais pas ce qu'ils ont fait sur DSK, là je me pose la question, tu sais, sur l'histoire avec...
Ils s'en sont moqués aussi. Hein.
Mais est-ce qu'ils ont tourné en ridicule... Enfin, comment ils ont tourné en ridicule ? Là, je me dis, peut-être que ça, j'aurais pas été très d'accord non plus. Mais peut-être que si, j'en sais rien.
J'ai pas la bulle, mais je me souviens d'une une où il est assis dans un fauteuil avec un peignoir entrouvert et il bande, en gros. Mais je me souviens plus de ce qui est marqué dans la bulle, en fait. Mais c'est pareil, c'est... Il y en a eu plusieurs, des caricatures de DSK là-dessus, en gros, qui est tout le temps en chaleur.
Voilà.
Bon, c'est déjà la fin.
C'est la fin. Une heure, ça passe vite. Si vous voulez débattre avec nous, vous savez quoi faire. Vous savez où nous contacter sur notre site internet, notre page Facebook. Vous tapez Jean Rage, vous tomberez dessus. À dans 15 jours.
Salut
et bon dimanche.